Eh bien Antoine, bonjour, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. En effet, nouveau numéro de Par ici, il est sorti avec bien sûr la poursuite de la carrière et de l'œuvre de Miles Davis et puis quelques nouveautés aussi qui viennent de paraître. On va donc, comme d'habitude, commencer par Miles Davis. On l'avait donc laissé en janvier 1949. En février 1949, Miles est de retour donc au Royal Roost à New York, où sont programmés alternativement le Tadamron Big Ten, dont il fait partie, et le Charlie Parker Quintet, dont il ne fait plus partie d'ailleurs. Alors, comme je vous l'avais indiqué, il y a eu une retransmission une nouvelle fois des sessions qui ont été enregistrées et rediffusées donc à la radio. Mais comme je vous le disais, la qualité du son est tellement mauvaise qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. On va quand même savoir que Tadamron est certainement l'un des arrangeurs les meilleurs dans le domaine du bebop. Et Miles, en jouant donc avec ce quintet, va retrouver vraiment ce qu'il a voulu créer dans le contexte, lui, de son nonette. Le 12 avril 1949, retransmis donc depuis le Royal Roost, Casbah. Thank you. C'était donc Casbah retransmis donc depuis le Royal Roost en avril 49. Alors je vous disais que le son était pourri, effectivement, sachez que ce que vous avez écouté, c'est une version remasterisée, parce qu'au départ c'était paru sur un label pirate qui s'appelle Beppo, sur un vinyle donc, et grâce aux soins du patron de Fresh Sound, Jordi Pujol, on a pu récupérer un peu de son, mais à quoi bon insister, puisque malgré cela, on ne peut pas dire que ce soit d'une qualité haute fidélité, bien loin de là. D'autant que, eh bien, 48 heures après, on va retrouver donc le Tad Dameron Tintet, cette fois-ci en studio Capitol, avec vraiment un son adapté à une écoute normale, on va dire. Alors Miles a été engagé par Tad Dameron pour remplacer Fats Navarro, qui était arrivé à New York dans l'orchestre de Billy Eckstine, repéré bien sûr par la plupart des grands arrangeurs du coin. Il avait pas tardé à trouver du boulot, notamment avec Tad Dameron, mais malheureusement, il avait lui aussi succombé comme Parker à la dope, et par conséquent, présence plus qu'incertaine lors de certaines sessions, raison pour laquelle eh bien, Tad Dameron décide de se séparer de lui et de faire appel à Miles Davis, donc pour une participation beaucoup plus régulière, car Miles était vraiment un monsieur qui s'adonnait absolument pas, encore tout au moins, à la dope et à l'alcool, et par conséquent, on pouvait compter sur lui lorsqu'il y avait des sessions d'enregistrement. Donc le 21 avril, Tad Dameron va rentrer dans les studios de Capitol pour un deuxième enregistrement, avec notamment ce Focus. Focus du 21 avril 49 par donc le Tintet de Tad Dameron. Le groupe est le même que celui qui officiait d'ailleurs au Royal Roost, à l'exception de Kay Winding, qui a été remplacé par Gigi Johnson au trombone, parce que Gigi vient de rentrer à New York après sa tournée avec Illinois Jacket. Il faut rajouter aussi la présence de la vocaliste Kay Penton, sans aucun doute imposée par Pete Rigulo et Capitol pour céder vraiment à la mode du moment, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle apporte grand-chose à l'orchestre. Miss Kay Penton, on va l'écouter notamment dans ce « Heaven's Doors and Open Wide ».
Haven't you heard? There's love inside. Angels cannot be denied. Give me your hand, I'll be your guide. We'll go sailing into space. Won't that please you? Clouds around you, you've been living in a dream. Open your eyes and realize some dreams really do come true. So much depends on what you do. You know I'm here, so wake up, dear, make my dream come true. Heaven's doors are open wide.
Heaven's Doors Are Open Wide, donc par le quintet de Tad Damron. Et puis peut-être avez-vous remarqué, ce qui est d'autant plus surprenant, l'engagement de Miles auprès de Tad Damron, c'est que Miles ne prend aucun solo. Jusqu'à présent, on l'a purement entendu quelques fois, si on prête vraiment l'oreille, en tant que trompette leader, mais pas de solo. Et pour des raisons tout à fait surprenantes, parce que c'est quand même pas la mode du moment, eh bien Tad Damron a décidé de confier et l'exposé des thèmes et les principaux solos au guitariste. Alors allez savoir pourquoi, John Collins va avoir ceci, à tel point qu'il aura même un morceau qui sera dédié. Ce thème s'appellera John's Delight. Thank you. John Delight, donc par Tad Damron Tintet. Alors, évidemment, vous me direz pourquoi passer du Miles Davis si on ne l'entend pas. Eh bien, c'est aussi le rôle d'une intégrale, comme je l'avais indiqué. Et évidemment, sauf que vous êtes, tout comme moi, à la fois collectionneur et vraiment amoureux de Miles, peu d'intérêt pour cet enregistrement, mais Miles est là et par conséquent, je me dois de passer ce qui me paraît intéressant dans la carrière de Miles. Bien sûr, je vous l'ai dit, je vais éviter dorénavant de passer ce qui est inaudible, car ça ne présente pas beaucoup d'intérêt si on ne l'entend pas, mais lorsque c'est dû aux conditions d'enregistrement. On va donc terminer la séance, peu mémorable pour Miles, avec un dernier morceau enregistré, et notamment avec la vocaliste Kay Penton, dont on peut avouer sans trop se tromper que si elle a une voix très agréable, eh bien elle n'a pas grand-chose et pas beaucoup d'affinité avec le bebop, Miss Penton. Le thème s'appelle « What's new ?» Rien de nouveau à mon avis, surtout lorsque c'est Kay Penton qui nous le susurre, parce qu'effectivement, elle a certes une diction parfaite, je pense que dans les cabarets, elle devait faire forte impression, mais dans les cabarets bebop, à mon avis, elle n'avait pas grand-chose à y faire, cette pauvre fille. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les aléas des enregistrements de 1949 de Tad Damron, Kay Penton, Tad Damron, Miles Davis, qui prend un tout petit peu un solo en trompette leader dans ce What's New.
What's new? Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but see. For your hand, I understand. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course you couldn't know. I haven't changed.
Voilà, What's New, donc terminé cette séance de Tad Damron, et le jour suivant est un jour très important pour Miles, pour la musique et pour l'histoire du jazz. En effet, ce sera le 22 avril 1949. Miles va retourner dans les studios Capitol avec son Nonette au grand complet cette fois. Gigi Johnson a réintégré le groupe. Sandy Siegelstein de l'orchestre de Claude Tornil remplace Junior Collins au cor anglais. L'orchestre de Dizzy est de retour à New York, ce qui fait que John Lewis peut reprendre sa place au piano. Un nouveau bassiste vient de rejoindre le groupe, Nelson Boyd, qui est avec Dizzy Gillespie d'ailleurs, et Kenny Clarke revient en studio pour la deuxième fois, remplaçant Max Roach, qui lui a rejoint Charlie Parker au mois de janvier 1949. Fameuse session, puisque c'est effectivement la session de légende ou de collection, parce que moi je dirais de légende, mais Miles dit qu'elle est de collection, c'est ainsi, et Miles a toujours raison. Donc c'est évidemment The Birth of the Cool, vous avez reconnu. Alors ce jour-là, quatre morceaux seront enregistrés, avec notamment ce Vénus de Milo, sur un arrangement de Jerry Mulligan. Vénus de Milo par le nom net donc de Miles Davis, qui, vous l'avez certainement compris, est en train d'inventer un nouveau jazz beaucoup plus accessible, on va dire, que le bebop. Il s'en expliquera d'ailleurs lui-même, enfin au travers de mes propos, un peu plus tard. Pour l'instant, on va retrouver donc le nom net. Je vous donne la composition pour mémoire. Il y a donc Miles Davis, bien sûr, à la trompette, Gigi Johnson au trombone, Sandy Schigelstein au corps anglais, Billy Barber est au tuba, Lee Konitz à l'alto, Jerry Mulligan au ténor, au baryton, veuillez m'excuser. La rythmique, ce sera donc John Lewis au piano, Nelson Boyd et Kenny Clarke. John Lewis qui va signer l'arrangement du thème qu'on va écouter, Rouge, un rouge qui, à l'origine, ne figurait pas sur l'album 78 Tours et ne sera rajouté qu'avec l'apparition du vinyle en 1954. Thank you. Et puis maintenant, vraiment, le morceau qui fait vraiment tout l'intérêt de cet enregistrement, celui qui est la pierre angulaire de cette séance, Boplicity. Un morceau de légende qui, lui, mérite ce nom, un morceau de légende. Il a été écrit par Miles et Gil Evans, et pourtant, sur le 78 tours d'origine, il est attribué à Cleo Henry, qui n'était autre que la mère de Miles Davis. Allez, c'est encore une des facéties de M. Davis. C'était comme ça, et il avait souhaité que sa mère figure sur les albums. Voilà, voilà. Ce thème à lui seul fera l'admiration de tous et sera incontestablement le morceau qui fera de cet album ce morceau de référence, un album de légende ou de collection. Moi, je dis de légende et Miles se dira de collection. Peu importe, on n'est pas d'accord. J'ai le droit quand même. Alors, André Auder, qui est un musicologue et grand arrangeur, et vraiment un des plus grands monsieur qui a pu faire l'analyse du jazz, eh bien, dira de cet enregistrement, Boplicity, à lui tout seul, suffit à classer Gil Evans comme l'un des plus grands arrangeurs-compositeurs. Et Tad Dameron, qui n'est pas non plus un des manchots dans ce domaine-là, dira « Miles est le musicien le plus avancé à ce jour et Boplicity est certainement le meilleur groupe que j'ai jamais entendu. » Donc, par l'honnête de Miles Davis, Boplicity. Boplicity, et bien voilà, tout est dit, un nouveau jazz est en train de faire jour, et à partir de maintenant et jusqu'au hard bop, et bien tous les orchestres et tous les groupes s'inspireront de cette musique-là. Alors bien sûr, le bebop continuera avec ses adeptes, bien loin de là, mais malgré tout, la plupart des musiciens s'orienteront vers ce type de jazz un peu plus mélodieux, on va dire. Et la dernière composition, le dernier thème, Israël, une composition de Johnny Carisi, va terminer cette séance qui fera dire à Miles, je vous avais promis qu'il allait parler au travers de mes propos, si Birth of the Cool est devenu un article de collection, c'est, je pense, par réaction contre la musique de Bird et Dizzy. Leur musique était très hip, très rapide. Leur son n'avait rien de doux. Il n'y avait pas de ligne harmonique à fredonner dans la rue avec sa petite amie. Le bebop n'avait pas l'humanité de Duke Ellington. Les Blancs aimaient une musique qu'ils peuvent comprendre, entendue sans effort. Le bebop n'était pas venu des Blancs. Il leur était difficile d'entendre ce qui s'y passait. Et puis, dans mon groupe, il y avait des musiciens blancs. Cela a plu aux critiques blancs qui ainsi avaient l'impression de participer à l'évolution du jazz. Voilà ce que disait Miles lorsqu'on lui posait la question pourquoi cet enregistrement avait fait vraiment autant de bruit et était demeuré dans la légende du jazz, comme je reviens souvent à le dire. On va donc terminer cette séance historique du 22 avril 1949 avec le dernier thème « Israël ». Israël, donc, termine cette séance mythique qui a fait vraiment pierre angulaire dans l'histoire du jazz. Je ne cesserai de vous le répéter parce qu'à partir de maintenant, on écoutera à partir de lundi Tad Dameron à nouveau avec Miles Davis et vous verrez que cela ressemble beaucoup à ce qu'on vient d'écouter. On va donc changer de registre, on va aller voir un autre trompettiste qui lui est blanc parmi les blancs parce qu'il est norvégien. Il s'appelle Mathias Ek. Et on l'avait découvert avec un premier album qui avait pour titre The Door. Il revient ici avec un deuxième album, à nouveau chez ECM, qui a pour titre Scala. Alors je dis qu'il est trompettiste, mais ce jeune musicien de 31 ou 32 ans, je ne sais plus, est à la fois vibraphoniste, guitariste électrique ou contrebassiste. Il a organisé cet album avec différents musiciens venus d'univers différents. Il y aura donc Tore Brunborg au saxophone ténor, Andreas Ulvo au piano, Odus Erlien à la basse électrique, Thorsten Lotus à la batterie, Gard Nilsson à la batterie, et notamment dans ce thème qu'on va écouter, Biermann, qui en fait, après recherche et information, eh bien Biermann, c'est tout simplement la maison que loue actuellement Mathias Ek à Oslo, un endroit qui a appartenu à un marchand allemand de John Fitz Biermann au 19e siècle. Je pense qu'on peut considérer ce morceau comme un hommage que je rends à mon lieu de travail. J'y ai un piano et un matériel d'enregistrement de base. C'est l'endroit rêvé pour travailler quand je suis en ville. Mathias Eich.
Thank you.
Mathias Eck, ça s'écrit E-I-C-K, extrait de l'album Scala paru chez ECM avec ce thème Biermann. Peut-être Biermann, je ne sais pas comment on prononce ceci à la norvégienne, excusez-moi. Alors, ce musicien a souhaité, je vous le disais, faire venir dans son groupe, dans sa instrumentation, différents musiciens. Ça va à la fois, on va dire, du septet au trio, avec des formules tout à fait différentes, et notamment avec ce thème Dune, dont le mois de juin, il a voulu l'écrire comme une chanson calme et légère qui évoque les jours d'été. C'est ce qu'il dit lui-même. Il faut dire que la pièce intègre dans son instrumentation à la fois le piano de Andreas Ulvo et, moins habituel, la harpe donc de Sidsel Walstad, qui est quand même membre du Norwegian Broadcasting Orchestra, pas moins que cela, donc par Mathias Eck, June. Thank you. Mathias Ek Jun. Et puis, comme il faut bien terminer cet album avec un dernier morceau, il faut dire que le titre s'y prête, il s'appelle Épilogue. Et par conséquent, Mathias Ek a souhaité faire cela avec un trio, une idée simple, on peut dire, une rencontre entre vraiment la douceur et l'énergie que va lui donner le batteur Thorstein Loftus. Alors, bien sûr qu'on le connaît peu en France, mais sachez que dans son pays, la Norvège, il est l'un des tout meilleurs batteurs de hard rock, de heavy metal et de jazz. Pas moins que cela. Par conséquent, on pourrait s'attendre vraiment à une déferlante sonore. C'est mal connaître Manfred Eicher et ses besoins ou ses envies de sonorité un peu éthérées. Alors certes, c'est vrai que Mathias Ek a un peu puisé dans la sonorité de Nils-Peter Molvær, mais je dirais aussi qu'il a dû aussi beaucoup écouter Mr. Garbarek. Toujours est-il, pour terminer cet album, tout au moins, donc par Mathias Ek, Épilogue. Mathias Ek avec Épilogue, extrait de l'album Scala, paru chez ECM. Et puis une découverte, enfin pour moi, pour vous, je pense pour nous tous, qui ne sommes pas des fanatiques, je crois pas, de Gilles Peterson, vous savez, le fameux DJ. Eh bien, il a fait découvrir à tous un jeune pianiste italien, chanteur également. Ce jeune pianiste a pour nom Raphaël Gualazzi. Il vient d'enregistrer donc chez Universal son premier album, qui a pour titre Reality and Fantasy, donc qui a été mixé par Gilles Peterson, ce qu'il a fait connaître, et connaître plus plus qu'il ne faudrait parce que je dois dire qu'il est bien meilleur pianiste que ce que l'on pourrait penser quand on peut l'écouter dans le morceau mixé par Gilles Peterson. On va le retrouver ici au Fender Rhodes parce qu'il ne désigne pas non plus la modernité des instruments pour agrémenter et accompagner sa prestation vocale sur ce thème « Scandalize Me ». Raphaël Gualazzi. Donc, ça termine donc l'émission. Je vous rappelle que vous écoutiez donc par ici les sorties, l'émission de jazz quotidienne donc de Divergence FM 93.9, réalisée grâce à la collaboration et quelle collaboration technique donc d'Antoine Curinier. Et puis, il me reste à vous dire qu'on se retrouvera donc la semaine prochaine, évidemment, à 17h30 pour une nouvelle émission de par ici les sorties, dès lundi, parce qu'il n'y en a pas le week-end, où nous retrouverons bien sûr Miles Davis et je pense plein de nouveautés. Pour l'instant, après cette émission, vous retrouverez l'émission Théâtre du Vendredi avec Florent Robin et Yves Gurcan qui reçoivent pour l'occasion, pour le Théâtre des 13 vents, Pierre Notte, metteur en scène et comédien, Marie Notte et Paul-Marie Barbier. Pour le Théâtre Jean Villard et le Festival Hybride 3e édition, Julien Bouffier plus Rabi Mouret ou Lina Saé. Et pour le Théâtre de la Plume, pour La Planète aux Bonbons, Brice Deporter. Quant au carré rondelet, pour la pièce de théâtre stimulant, amer et nécessaire, l'invité sera Isabelle Bondiot-Monet. Et je terminerai par la baignoire avec la pièce L'heure du bain, avec comme invité Karine Espinoza et Catherine Nespoulos. Il me reste donc à vous dire au revoir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à l'écoute de Divergence FM. Et on se retrouve lundi pour un nouveau Par ici les sorties.
Oui.
Divergence FM.
Attendez.
C'est toujours sur Divergence FM.
On part ? Ça tourne ? On peut y aller ?
Ça y est.
Monsieur Dani peut parler ?
Oui.
Politica pica pagliarica cama torta i vocalica vatensis polch chix pix pagliarix.
Cela dit, ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, c'est d'abord ce que vous venez de dire, et ensuite le premier mot. Vous avez dit...
Politica pica pagliarica cama torta i vocalica vatensis polch.
Oh maître, encore une fois.
Oh non, écoutez, vraiment, après ça, on ne peut pas faire mieux.
Mais après, vous irez dormir.
Vous ne pourrez pas vous plaindre sans raison.
Divergence FM.